RMC Running,
Benoît Boutron.
Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, c'est le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. L'événement numéro 1, c'est que Johan Durand, le maître Yodu, est en studio. Salut Johan.
Salut à tous, salut
ça fait
Benoît.
Longtemps, c'est pas
bah
mieux,
ouais, toujours bonne mine. On est tous les deux aussi beaux.
T'es là toi hein.
Toujours.
Ouais, ouais. Bon, ça me fait plaisir de te voir.
Ah bah ouais, je me suis dit, il faut que je voie un peu de grisaille. Voilà. Tu vois, j'en avais marre de ce beau temps.
Et bah t'es bien tombé.
Je me suis dit, il faut aller sous la pluie. Voilà, merci Paris.
Bon, on est ravis que tu sois là, Johan. Si vous aimez RMC Running, vous le faites le savoir en laissant une note ou un commentaire sur Apple, Spotify ou Deezer. Vous nous rejoignez sur Instagram, dans le club RMC Running sur Strava. Et pour le record du monde, on vous dit tout, le délai est rallongé. Profitez-en, ça va être énorme. On vous prévoit un casting de folie. Donc n'hésitez pas, il est encore temps de réaliser les perfs et d'aller s'inscrire sur rmc.fr. Johan, on reçoit aujourd'hui une championne qui cartonne. Une de tes amies, Margot Siraki, championne de France de cross-court, qui vient d'établir le quatrième chrono de tous les temps sur semi-marathon pour les femmes en France.
Ça plaisante pas.
1h09 et 49 secondes. À Lille, une terre d'expo à Lille.
Ah bah c'est chez elle, elle était à domicile.
Et voilà, voilà. C'est peut-être
elle
pour ça que ça a marché.
Par le public.
Et voilà. Elle va nous raconter son histoire, nous parler de sa polyvalence, revenir avec nous sur la déception de Séville, quand même, ouais. Parce qu'elle visait le marathon. On en parlera avec elle. Et là, une séance qui va tous vous intéresser aussi. La gestion des récupérations sur les séances de fractionnés.
Ah. Ouais.
On l'a jamais fait ça.
C'est vrai qu'on l'a jamais fait et c'est le plus important.
Eh ouais.
C'est quoi, c'est le facteur numéro un. Presque quand ton coach te donne la séance, avant de demander les chronos, faut demander la récup.
Eh ouais, parce qu'il y a mille façons de faire.
Bah exactement.
Eh bon bah voilà, on en reparlera. Une nouveauté que l'on instaure cette semaine, les tendances running. On est en partenariat avec The Running Collective. Oriane Miton du TRC sera avec nous. Un bon plan matos offert par Veja.
D'accord.
Eh oui, c'est pas des habitués du running et pourtant ils sortent une chaussure de running, la Condor 3, elle est magnifique. Allez découvrir ça, on sera avec Jean Pourra, développeur sport chez Veja. Et puis on a même un bon plan d'ossard, là c'est régalade hein, ce week-end.
Wow.
Bon plan d'ossard pour les Parisiens, le 10 km du Bois de Boulogne le 28 avril
toi,
prochain.
Ça.
Et moi j'y serai.
Ah ben voilà, et devant la maison.
Alors là c'est mes terrains d'entraînement.
Ça, tu connais tout.
Je vais pas gagner mais je serai pas loin. Non, je plaisante. C'est offert grâce à Iron et Finisher. Benoît Grassigny, le président de Finisher, sera avec nous. C'est dense, c'est complet,
ah, y a du monde.
C'est stylé. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, entretien avec une boule d'énergie.
Bonjour à tous, c'est Margot Siraki, athlète Adidas et membre de l'équipe de France.
Oui, j'ai 24 ans, je suis maintenant senior.
Et attention, Margot Siraki en a placé une à 300 mètres de la ligne.
Ce qui fait passer un cap aussi, c'est faut pas avoir peur d'avoir des ambitions. Ambition ne veut pas dire prétention.
Alors ouais, habituellement on me retrouve plus sur 10 km.
Ah, c'est très très fort ce qu'elle fait Margot Siraki, elle a attaqué à 300 mètres, elle se retourne pas.
Parce qu'avant en fait, je travaillais en tant qu'animatrice périscolaire.
La championne de France s'appelle Margot Siraki, c'est elle qui a fait exploser le peloton.
Tous les crosses ils sont différents, j'aime bien. Des fois il y a des crosses, il y a des petites haies, des fois de la boue, j'aime bien, c'est fun en fait. Moi en étant jeune j'étais moyenne et donc du coup c'est pas ça qui empêche de progresser.
Margot Siraki sera championne de France du cross-court féminin et c'est une sacrée championne de France très costaud qui s'est offert une sacrée performance dans la boue de Cap Découverte.
Ça m'a obligée de courir doucement parce qu'il faut savoir que j'avais je voyais rien, j'avais de la boue dans les yeux et je courais avec les yeux fermés. Bah, ça m'a freiné aussi.
Tout haut, il faut
Ah, on s'est régalé avec cette production sonore. On embrasse Geoffrey Charpy, c'est Kylian Vérov qui était à la production aujourd'hui. Et on accueille Margot Siraki, championne de France de cross-court. Salut Margot.
Salut.
Comment
Bonjour
ça va
à tous.
T'es en forme?
Oui, très bien.
Bon, là, on a une cross-woman. Là.
On a tout. Une cross-woman, une pistarde, une routarde. Je crois qu'elle a un peu tous les profils.
La polyvalence.
La polyvalence.
Incarnée. Ouais. Et senior, 24 ans.
Ah ouais. Et puis une nordiste. Là, on a une vraie nordiste. Hein.
Ah ouais. Bon, Margot, comment
ça va? Ça m'a fait rire le podcast.
Ah ouais.
Ça m'a très fait. Ouais, c'est une pépite ce podcast.
Ah ouais. Eh ben, écoute, on t'enverra l'audio si tu veux. Tu pourras te l'écouter. C'est la spécificité de RMC Running. Bah, donne-nous des nouvelles. Comment ça va? Tu es où là, Margot?
Alors, je vais très bien et ici, je suis dans la famille en Belgique.
Bon, tu es retourné comme ça sur tes terres, toi la nordiste. Et d'ailleurs, tu as brillé il y a quelques jours à Lille, on va y revenir. Johan, vous vous connaissez bien, vous êtes croisé au Kenya d'ailleurs, je crois.
Ben, on se connaissait d'avant, pas mal. Et on a passé du temps au Kenya ensemble à Iten au mois de janvier, là, au Renix Athletic Center, pour préparer le marathon de Séville.
Elle n'a pas fait Noël avec toi au Kenya, quoi.
Si, t'étais là pour Noël, ouais.
Tu étais aussi.
J'ai fait Noël Nouvel An avec Maître Yoju, voilà, qui a un surnom de Dr Love.
Ah, Dr Love, ça m'intéresse, ça. Excellent. Il faut nous expliquer ça.
Ça y est, elle commence à balancer les dossiers. Alors là, si on part sur ça, Margot, attention.
Dr Love, eh ben, je vais l'appeler comme ça maintenant, Dr Love. Ça me va.
C'est plus Maître Yoju. C'est ça. C'est parce qu'au-delà de mes compétences en tant qu'entraîneur d'athlète, j'ai d'autres compétences.
Ah, d'accord.
Au niveau de l'amour.
Ok, d'accord.
Je règle les problèmes. Okay, je règle les athlètes et je règle.
En fait, t'es un coach de vie.
Coach de. Voilà, exactement.
T'es pas un coach running, t'es un coach de vie, quoi. Incroyable. Vous avez passé Noël et le Nouvel An.
Bah ouais.
C'est pas fou, ça, quand même. Bon. Eh ben, écoute, on aura le temps d'y revenir, justement, ce stage kényan. Mais on démarre toujours nos podcasts par cette même question, Margot. Tout simplement, pourquoi tu cours, Margot Siraki, alors?
Alors, moi, il faut savoir que sans sport, c'est compliqué. C'est déjà dans la semaine, j'ai deux demi-journées de repos parce qu'on ne peut pas me laisser une journée sans faire du sport. Je suis une pile électrique.
Donc, c'est pour ça. Donc, tu as l'obligation de te dépenser, de faire du sport et c'est ce qui te détend. Gros potentiel, hein, Margot. On sourit là, évidemment, en l'accueillant. Mais Johan, tu me le disais.
Gros potentiel.
Polyvalence et gros potentiel.
Potentiel, polyvalente et travailleuse surtout. Moi, j'ai vu quelqu'un de. Ultra motivée, c'est-à-dire que le matin, c'était presque elle la première levée et pareil, l'après-midi, elle allait faire sa PPG à 4 heures avant de courir, après elle allait courir. Une fille très motivée, très investie dans son sport et qui justement a des performances qui sont pas toutes en adéquation avec son niveau. Il y a encore des choses à améliorer chez elle, mais elle a quand même... que ce soit sur 10 ou sur semi, frappé fort quand même.
Ouais. Exactement. Et puis après, elle monte sur marathon, donc on suivra ça avec attention. On y revient dans un instant, juste après ton CV de coureur, Margot.
RMC, le CV de coureur.
Donc tu nous l'as dit, tu as 24 ans, tu cours depuis que t'as quel âge, Margot?
Alors, je cours depuis l'âge de 10 ans et ma première licence a été à 14 ans.
Ah oui, c'est beau.
Elle vient pas du foot, elle vient de la danse.
D'accord, danseuse.
Elle m'a dit qu'elle était danseuse, c'est ça? Ou pom-pom girl, je sais
plus.
Ok.
Oui, je viens de la danse et la section danse à l'arrêté, j'ai dû faire un autre sport et là est venu l'athlète.
Un beau concours de circonstances alors.
Le hasard.
Ben, c'est pas plus mal parce qu'il y a quelques forfaits en ce moment à Danse avec les Stars, donc tu peux peut-être aller chercher des places, tu vois. Pourquoi pas?
Ah pourquoi pas, ouais, et si ils entendent notre podcast.
Méfie-toi, ça peut arriver plus vite que prévu. Tu cours combien de kilomètres par semaine en moyenne, Margot?
Au Kenya, la plus grosse, c'était 189, mais de moyenne 150, 160.
Ok, des bons volumes quand même, bon volume d'entraînement. Tu cours combien de fois par semaine du coup?
12 entraînements et les sacrés seulement 2 demi-journées de repos.
Et c'est quand en général les demi-journées de repos?
Oh, ça varie.
Ça varie?
Oui, on les met pas tout le temps au même jour.
Et tu fais quoi? Tu t'ennuies?
Ouais.
Tu te tournes
du coup, non, je fais la cuisine.
Ah bon, ça va. Magnifique.
Oh, ça, j'ai pas vu ça au Kenya.
Ah non. Bah alors, Dr Love.
On n'a pas eu cette chance. Ah si, t'avais fait des chapatis, là?
Mais non, j'avais fait la galette des rois qui avait...
Sans sucre, sans sel. Ouais. C'est quoi que vous aviez oublié?
Non, on avait mis du sel au lieu du sucre.
Ouais, voilà, elles ont inversé. Elles ont vu un truc blanc et se sont dit, c'est le sucre. En fait, c'était le sel. Immangeable.
Alors là, Margot, faut passer plus d'une demi-journée par semaine à faire la cuisine. Alors,
t'imagines le niveau des cristaux qu'on avait?
J'imagine ta tête en train de goûter la galette. Ouais,
je me suis dit, c'est salé, ça. J'ai un peu soif.
Ouais, c'est bon, ça.
Excellent. Mais non, c'est le Kenya. On perd les moyens dans cette cuisine.
Ah ouais, c'est ça. Ok. Margot, est-ce que tu as des records perso dont tu es fière?
Le 10 km route, parce que la barrière des 32, c'est symbolique.
Et la barrière des 32, c'est quoi ton record exactement?
31,59.
Ouais, j'ai été la chercher.
Le café, là, toi,
le cassé du renard.
C'était quoi? C'était il y a un an à Ibiza, c'est ça? C'est
ça. Oui, c'est ça.
Ok, magnifique. La dernière course, j'imagine que c'était le semi-marathon de Lille. Quelle sera la prochaine?
Le 5 km route en Allemagne. C'est le Adidas Roi de Taux Record.
Ok, sympa.
C'est quoi la date?
27 avril.
Ah oui, t'as un peu de temps, t'as un mois pour te préparer. Et ouais.
Je vais enchaîner avec le 5000 mètres de Lyon la semaine d'après, le 5 mai.
Ok, d'accord.
Parce que moi, j'aime bien enchaîner les deux semaines.
Ouais, bah j'ai vu ça. T'as fait championne de France de cross-court et après, record sur semi-marathon. Donc, parlons d'entraînement rapidement. Margot, quelle est ta séance d'entraînement préférée?
Les fartleks.
Ah, magnifique. Les jeux d'allure. Parfait. Et la séance que tu détestes?
Les séances que je sais pas suivre, les garçons, le sprint court.
Bon, Margot Siraki, un personnage pétillant avec nous cette semaine dans RMC Running. Margot, on le disait, donc deux paires fraissantes. Alors, tiens, bonne question, laquelle te rend le plus fière? Est-ce que c'est ce nouveau titre de championne de France de cross court ou est-ce que c'est le record sur semi?
Ah non, le record sur semi. Oui.
Le record sur semi, ouais, 1h09, oui. 49. Ton ancien record, c'était 1h11.01. Johan, ça commence à parler. Hein. Passer en dessous les 1h10 pour les filles.
Sub 1h10, ça commence à être costaud. Son 32 minutes était déjà pas mal. Son 31.59 était déjà pas mal sur 10. Mais là, pour moi, ouais, 1h09.49, ça vous place,
ça veut dire
vous
que
place
une pile. Pour toi, en termes d'équivalence, c'est la perf la plus notable pour Margot?
Ouais, je dirais 1h09.49 pour moi.
Ouais, quand même. Ouais. La perf sur semi. Ouais. Okay. Bah, raconte-nous la course, Margot. Quel était ton objectif de base et comment ça s'est passé? Je crois que tu as eu un lièvre de luxe tout au long de la course, hein, d'ailleurs.
Alors, l'objectif, c'était de faire moins d'une 10-20 tout d'abord, ouais. Ce qui est les minima pour les championnats d'Europe au mois de juin.
Ouais.
Et on s'est dit, bon, on va prendre, ça fait longtemps que je peux faire 1h10.00. On a dit, bon, on va prendre le risque, on va viser 1h10.00. Et moi, j'ai fait une totale confiance au lièvre. J'ai pas du tout regardé ma montre et je l'ai suivi. Et à la fin, je vois ce chrono-là et ouais, ça a été la joie complète.
Eh oui, l'explosion de joie, on se rappelle de ces images. Un top parcours à Lille, hein, d'ailleurs, c'est le jour où Jimmy Gressy a battu le record d'Europe du 10 km. Chez toi, en plus, est-ce qu'il y avait de l'ambiance? Est-ce que tu as été encouragée, Margot?
Oui, ce qui m'a poussé vers le record aussi est de ne pas m'endormir parce que des fois, je trouve qu'on s'endort en course. C'est à chaque fois, j'entendais « Allez Margot !» Et en plus, c'était super, c'est que d'habitude, un semi, on a une boucle et là, on avait deux boucles. Ouais. Donc, c'était vraiment stimulant.
Bon, et magnifique. 1h09.49, ça veut dire que tu iras à Rome pour les championnats d'Europe alors?
Là, il y a des grandes chances, ouais.
Ouais. À mon avis, je suis première au bilan. Il ouais. faudrait qu'il y en a deux qui fassent mieux d'1h09.49 pour me passer.
C'est ça en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on rappelle le système pour ceux qui nous écoutent. Les trois filles qui seront qualifiées pour le marathon olympique auront des places acquises pour les semi-marathons de Rome. Le semi-marathon de Rome qui est début juin. Le même week-end que le record du monde, le 8-9 juin. Et ensuite, il y a deux places à prendre.
Il y a deux places.
Les meilleurs chronos. Du coup.
Si les trois athlètes veulent y participer, il y en a qui peut-être...
Une obligation.
Celles qui sont sélectionnées olympiques, c'est au choix. Ouais. Si elles veulent pas forcément le faire, plutôt se préparer tranquillou.
À y aller quand même.
Non, c'est pas une obligation. Donc, et après, voilà, du coup, s'il y en a trois qui viennent, si les trois marathoniennes viennent, effectivement, il reste deux places. Okay. Et c'est vrai que chez les filles, c'est un peu comme chez les gars, les places sont chères, mais là, avec une 9,49, Margot, elle est tranquille.
Là, ça sera dur à aller chercher, d'autant que les concurrentes principales veulent toujours croire à un record sur marathon. Moi, je pense à Fadoua et à Manon, par exemple, qui, elles, vont tout tenter sur un marathon, a priori, au mois d'avril. Quatrième performeuse française de l'histoire, ça marque, hein, pour ceux qui veulent un ordre d'idée, ça fait de l'allure 3,21 au kilo, hein, sur le semi-marathon.
Oh là là.
Ça fait un passage en 33-39 au 10K, j'ai vu.
T'avais regardé tes temps de passage, Margot, ou pas du tout?
Ah non, j'ai pas du tout regardé.
Ah ouais, t'as fait confiance totale.
Que les pompes du lièvre.
Confiance totale. Ouais.
C'est bon, ça. Excellent.
Et il était vraiment excellent. Des fois, on arrivait sur des garçons, ça nous ralentissait. Il disait pardon.
En plus, poli. Un lièvre poli.
Ouais, un lièvre pardon, poli, ouais. Exactement. Et puis, parle-nous de la course de la semaine d'avant, les championnats de France de cross-court à Cap Découverte. Nous, on a raconté ce chantier. On a reçu plusieurs champions qui étaient avec nous. C'était assez dingue de raconter ça. Raconte-nous ta course, tu termines devant Agathe Guillemot d'ailleurs sur le cross-court qui elle sortait des mondiaux en salle à Glasgow avec cette première finale pour elle. Est-ce que tu peux nous raconter ce titre national du coup?
Agathe, très 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 costaud.
Ah
parce que dans les cotes, on peut dire qu'il fallait l'accrocher. Elle avait vraiment des bonnes cuisses.
Elle a de la puissance, ouais.
Ouais, elle a de la puissance. Et je me suis dit, une fille comme ça, si ça se joue dans les 400 derniers mètres, je suis morte.
Ah, t'as bien fait, ouais.
Ouais, je suis morte. Donc du coup, ouais, je suis partie avec la Belge, Elise Van der Elle. Et après, on a mis du train, on a été de plus en plus vite et on l'a distancée. Mais pas facile de la distancer.
Ouais, on l'a dit, Johan, nous, c'est ce qui nous plaît dans le cross, c'est qu'en fait, toutes les disciplines se mélangent. Et c'est vrai que quand tu connais les qualités de ton adversaire, Agathe, une coureuse de 400, il ne faut pas arriver avec tu elle à 500 mètres de la ligne, quoi.
Et c'est beau sur le cross parce que tu vois, tu as une coureuse de semi qui les lutte contre une pure mileuse, une pure coureuse de 1500 sur une épreuve de cross-cours. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment sympa dans le cross, c'est que bah, tu as cet amalgame-là qui se fait. Et après, c'est vrai que c'est là où chacun doit jouer par rapport à ses forces ou par rapport aux faiblesses de l'autre pour anticiper. Et effectivement, le rôle de Margot, c'était de mettre du train pour l'épuiser et pour pas arriver au sprint. Parce que c'est sûr que dans le dernier 200, si Agathe Guillemot, elle enclenche, Margot, avec ses 45 kilos et sa pointe de vitesse d'un escargot vent de face, elle n'aurait pas eu grand-chose à faire. Ouais.
Et ouais, la stratégie a été bonne. Fatiguée, Agathe Guillemot, au train et aller chercher ce nouveau titre national. Tu es une vraie spécialiste de cross, hein, on y reviendra. Mais est-ce que ces deux bons résultats conjugués effacent un peu la déception de Séville, Margot, parce que c'était ton objectif principal, la qualif olympique sur marathon? Tu étais un peu comme dans la même situation que Johan Durand, d'ailleurs, à Séville, comme ça, pour tenter une dernière carte comme ça. Est-ce que tu as terminé déçu? Qu'est-ce qui s'est passé à Séville, Margot?
Bah, à Séville, je me suis mis les moyens d'y arriver. Après, j'ai été un peu jetée dans la gueule du loup, comme dirait le coach, parce que moi, mon objectif, j'avais fait zéro marathon. Et en zéro marathon, je devais faire le record de France, qui était vraiment...
C'était pas cadeau.
Ben là, c'était pas cadeau du tout. Du coup, en plus, j'avais zéro lièvre au marathon. Et toutes les autres filles avaient un lièvre. Et bien sûr, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai su prendre zéro ravito.
Ah, c'est ça, pardonne. Ouais. Et erreur de néophyte. Et oui.
Et du coup, au quatrième, on a mis le clignotant parce qu'il n'y avait plus d'essence dans la voiture.
Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et oui, le travail des ravitaillements, nous en parlons constamment dans ce podcast. Mais là où je la reconnais, là où je reconnais ton histoire, bon, toi, tu as beaucoup plus d'expérience sur le marathon, mais c'est... ça doit être horrible de partir sur une course et de pas miser sur tes sensations, mais de partir sur une allure imposée, requise, quoi.
Ah bah ouais, parce moi c'est là, ça qui m'a tué.
Et voilà, toi ça t'a tué, Johan, tu nous l'avais raconté d'ailleurs.
Ah ouais. Moi c'est de courir après un chrono qui n'était pas le mien, mais plutôt quelque chose que je devais aller chercher devoir me battre sur ça, alors que c'était pas du tout un objectif normalement, aller chercher de 7, de 8, j'avais plus un potentiel à 2, 9. Et donc du coup, ouais, tu pars en sur-régime, tu tentes le coup, hein, des fois ça peut passer. La preuve, Margot, sur le semi, je pense qu'elle s'est surprise, elle s'est pas posée de questions, elle a couru, elle a fait confiance au lièvre, elle a posé le cerveau et elle l'a repris sur la ligne d'arrivée, tu vois. Et là, ça a marché, et sur marathon, comme t'as pas le droit à l'erreur, et la moindre petite erreur, tu la payes cash. Ouais.
Donc on imagine la Margot, la déception, ça veut dire que les rêves de Jeux Olympiques s'envolent ou t'as un plan B, tu espères une autre distance?
Alors ça va peut-être surprendre, mais on va peut-être tenter sur le 5000 mètres piste. Donc c'est un gros gros coup de poker parce que j'en ai fait qu'un dans ma carrière et c'est 15,50, donc c'est hyper lent, mais c'était à Carquefou, c'était dans des conditions pas terribles il y a 2 ans. Donc là, je me dis, en mettant les moyens, un focus sur ça, on verra.
Donc t'es vraiment boosté par les jeux, quoi. C'est un rêve que tu veux atteindre et tu cherches le meilleur moyen d'y arriver. Quels sont les minima sur 5000 chez les femmes?
Alors, ça ne sera pas les minima qu'il faudra faire. Là, ça, on va passer au ranking.
Du ranking, ouais.
Ok, donc c'est-à-dire qu'il faut que tu multiplies les meetings et les bons résultats, quoi.
Ouais. Et c'est pour ça que je vais peut-être laisser ma place sur semi à une des filles si je fais les minima sur 5000. C'est 15-15 pour 15, les 15. Europes.
Et oui, pour les Europes, ouais.
Et c'est pour ça que tu vas te tester un peu sur 5000 à l'étranger avec cette course Adidas en Allemagne qui sera la prochaine, d'ailleurs, dans un mois.
Oui.
Ok.
Je vais faire une route et après des 5000 pistes.
C'est 14,52 si tu veux passer directement sur 5000 chez les femmes.
14,52, mon dieu.
Non, mais je veux bien, mais quand même. Là,
ça il manquera un tour, c'est tout. Il faut que tu comptes 6 tours et demi. Tu demandes à leur gars.
C'est quoi l'allure, Yodu?
Bah, c'est 3 au kilo, c'est 15,0, donc c'est 2,58.
Mon dieu, quelle horreur. Bon, ok. Bah Margot, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que le marathon, ça reste la distance dans laquelle tu veux t'épanouir dans les mois qui viennent? Tu es jeune, tu as 24 ans, tu as le temps de voir venir, il y aura des Jeux dans 4 ans à Los Angeles. Est-ce que c'est, quoi qu'il arrive, après la période Paris 2024, ce qui t'attend pour la suite?
Alors ouais, non, on a revu tous les plans.
Ah oui, tous les plans sont revus, alors qu'est-ce qui se passe?
Elle est passée en examen, là.
C'est ça, ouais. Non, je vais faire du mile. En fait.
Non. Ouais. Le 1500 comme il y a 3 ans. Non, je rigole. Non, ouais, en plus, je viens du 1500 et on est passé du 1500, on m'a projeté sur marathon en très très peu de mois, ce qui est un peu d'où ma fracture de fatigue il y a un an. C'est qu'on a triplé mes kilomètres et j'ai fait fracture de fatigue. Du coup, là, on s'est dit, on va reprendre, on va passer les étapes, on va faire Margot sur 5000, Margot sur 10000 et après sur marathon.
Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais sur les JO de Paris ont amené des athlètes à revoir leur plan de carrière totalement. Ça aurait été les JO de Singapour, ça aurait pas été la même histoire. Oui. Et c'est vrai que tu as des athlètes comme Margot, mais je pense à d'autres, Valentin Gondouin, des choses comme ça, des gens qui se sont lancés sur le marathon ultra jeunes parce que dans le potentiel des JO, bah ils se sont dit vas-y, je tente un coup de poker et puis même moi dans mon cas, tu vois, j'ai essayé de mettre les bouchées doubles, d'aller plus vite que la musique des fois à écouter son corps parce que c'est les JO de Paris et c'est fois tous les 100 ans que c'est à la maison, donc tu tentes des trucs, mais effectivement si ça marche pas, après il faut se reposer sur une feuille blanche et repartir là sur des vrais cycles et que ce soit des vrais entraînements pour nous les athlètes de haut niveau, calculer, penser par rapport à soi et à son potentiel.
Mais
tu vois,
expliquez-moi comment on en vient à la déduction que Margot, la chance qu'elle a, c'est sur marathon, parce que Margot c'est une coureuse de cours. Ça veut dire que vous,
c'est son potentiel.
Déjà c'est ton potentiel de base, c'est tes qualités naturelles d'endurance. Et ensuite, est-ce que tu jettes un œil à la concurrence, j'imagine. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Parce que ce qui est une bonne nouvelle d'ailleurs pour le marathon féminin, c'est que là, la concurrence arrive d'un coup.
Bah, oui.
On a eu une longue traversée du désert et là, chez les femmes, ça y est, ça se réveille. Margot, comment s'est passé le processus de réflexion alors pour monter sur marathon?
Ben, en fait, je suis arrivée à Fontainebleau et Thierry a vu mes capacités sur le long.
Ton entraîneur, ouais.
Ouais. Donc, en me regardant sur une semaine, il m'a regardé, il trouvait que j'étais... Il dit à chaque fois, t'as un sacré moteur. Donc, du coup, il m'a projeté sur le long. Et de là, c'est pour ça que je suis passée du 1500, parce qu'on peut voir, je suis passée du 1500 au marathon. Et j'avais jamais vu de 5000, 10000, contrairement aux autres filles qui montent progressivement les distances. Ouais. Et du coup, on a triplé mes kilomètres et tout. Et ouais, ça a fait un peu une catastrophe, parce que du coup, ça m'a fait une fracture de fatigue. D'où que j'ai pas pu faire mon marathon de Séville. Et qu'après, j'ai été jetée dans la gueule du loup l'année d'après. Pour faire un marathon direct avec des gros minima, quoi.
Elle est passée.
Si j'aurais fait.
Vas-y. Ouais. T'es passé d'un Grand Prix de Formule 1 aux 24 heures du Mans. En fait, comme ça. Avec le même physique, quoi. C'est fou. Avec la même voiture.
J'aurais eu l'opportunité de faire le marathon de Séville l'année dernière, par exemple, en 2h, 29. Et bien là, peut-être, j'aurais pu faire un autre chrono. Mais
ouais,
là,
sur un premier, parce qu'on n'est pas la distance, c'est dur, ouais.
Mais parce que quand ça se passe comme ça, c'est-à-dire que c'est pas ton choix de base à toi d'aller sur marathon, c'est ton coach qui t'indique. Bon, après vous en discutez, ils vont faire rien sans ton accord. Mais est-ce que ça te rebute pas, Margot, du coup? Parce que t'y vas, t'as une mauvaise expérience, tu fais fracture de fatigue, ensuite mauvaise expérience à Séville. Est-ce que ça te freine dans tes envies de long, d'ailleurs?
Bah là, les deux coups de bambou, c'est vrai que là, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est pour ça que j'ai envie de m'épanouir un peu sur les plus courtes distances avant de remonter.
Qu'est-ce qui te fait envie, toi? C'est donc le 5000, 10000? C'est de ça dont tu as envie en ce moment?
Ouais, j'ai envie de faire ça. 5000, 10000 et après monter. Parce que j'ai pas... C'est dommage, je trouve que... Parce qu'en fait, j'adore l'athlète. Et j'aimerais bien durer dans le temps.
Comme Johan.
Et
elle va être encore là.
Oui, bien sûr.
Ouais, donc du coup, pour durer dans le temps, bah, monter et montrer mon potentiel sur les courtes distances, ça serait cool, quoi.
Bah oui, ouais, non, mais je comprends. Mais c'est le risque, ça on n'en parle jamais, c'est vrai, de l'aiguillage du coach.
Ah oui.
Il détermine le potentiel. Thierry Chauffin, c'est quelqu'un de très reconnu, hein, au milieu de l'athlé, un entraîneur très respecté, d'ailleurs dans un gros club Fontainebleau, ouais, ouais. Qui a tout raflé, notamment
c'est,
au cross.
C'est pour moi le meilleur entraîneur qu'on ait en France. Ouais.
En plus.
Ouais, bah, je pense que c'est le meilleur formateur d'athlètes. Quand tu vois le nom d'athlètes qu'il a sorti du pôle et qui suit depuis tout cadet, tu vois, c'est pas juste un entraîneur qui prend un gars fort qui a déjà des armes, qui sort des juniors espoirs et ouais. qui fait progresser en senior. C'est un formateur également. Je pense à Louis Gilavert, à Yannick Elaf, à Charlotte Pizot, René Lamotte au début. C'est quelqu'un qui peut te faire passer des caps depuis tout jeune. Tu vois, depuis minime, cadet, junior, est amené au plus haut potentiel en senior. Donc
et c'est là qu'on voit la valeur d'un coach.
C'est là. Pour moi, ouais, c'est là où on voit vraiment la valeur d'un coach, c'est celui qui peut sortir des cadets. Parce que amener un athlète qui vaut 13, je sais pas moi, qui a déjà des performances en espoir à être très bon en senior, c'est ouais. pas très, c'est dur, hein, c'est très dur, mais c'est pour moi moins fort que quelqu'un qui prend depuis tout jeune, qui détecte un petit talent et qui le fait progresser. Ouais.
Tu vois ce que je voulais dire, c'est en fait la clé de voûte. C'est qu'il y a une osmose totale avec l'athlète quand même.
Et le truc, c'est que maintenant, il faut qu'il y ait une osmose avec l'entraîneur et l'athlète. Mais maintenant, il y a le manager, il y a les marques, il y a...
Ouais,
tu vois,
ouais,
le marathon siphonne un peu toutes les autres distances. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a de l'argent, parce que c'est un sport à la mode, parce que les marques te poussent à y aller. Parce
c'est
que
très grand public, le marathon.
C'est très grand public.
Bah, bien sûr.
Et bah effectivement, maintenant, du coup, on a un potentiel de ouf sur marathon, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Mais t'as vidé... complètement, bah, le 10 000, le 5 000. Tu vois, typiquement, Félix Bourg, c'est très bien ce qu'il a fait sur marathon. C'est même monstrueux, c'est un niveau de ouf.
2-6.
Mais lui, dans sa logique de carrière d'il y a quelques années, un mec comme ça, normalement, il aurait dû rester sur 5 000, 10 000 et monter peut-être un peu plus tard. Tu vois, il est quand même relativement jeune. Je pense à Zach Charic, pareil, il a 24 ans. Tout à l'heure, j'ai cité Valentin Gondouin. Chez les filles, t'as Méline qui a 25 ans. Tout ça, c'était des athlètes normalement qui avaient un potentiel à courir fort sur 5 000, 10 000. Bah, là, maintenant, ils sont tous sur marathon et puis maintenant pour faire marche en arrière c'est un peu plus compliqué.
Bah c'est ça, c'est la clé pour Margot en tout cas, voir si elle pourra comme ça redescendre. Après tu es encore jeune, on le disait, donc 24 ans. Est-ce qu'on peut revenir quand même sur les faits marquants de ta carrière? Je pense notamment à cette médaille d'argent par équipe à Dublin en cross. Parce que le cross, toi, t'as un vrai amour, une vraie passion pour le cross, Margot. Là, il y a pas de calcul et on donne tout ce qu'on a, quoi.
Ouais, j'aime bien le côté. Le parcours, ils sont tout le temps différents et tout, et je trouve ça sympa. Et le côté par équipe, c'est cool aussi dans souvent les championnats d'Europe.
Et tu le places haut comme ça, ce titre de médaillé d'argent?
Ouais, ça va. Moi, c'est ce que j'ai. J'avoue, je suis quand même plutôt les titres. Les titres, par exemple, comme. Ouais. Ouais, 3000 mètres en salle ou les titres France de 10. Ou...
Ouais, parce que tu as été championne de France de 3000 en salle à Miramas en 2022. Ouais.
Ouais, sur ça, tout à l'heure, j'ai eu le sourire quand vous avez mis la musique.
Ah oui,
c'est...
Vas-y.
Ouais, ça. C'est quelque chose, je sais pas, qui me. Ça donnait des frissons, limite.
Ah oui, ça rappelle de bons
souvenirs.
C'est un aboutissement personnel, hein, forcément, d'aller chercher un titre de
champion de France.
Mais tu es quand même double championne de France de cross-court. Donc là, tu n'as rien volé à personne. Tu es allé chercher ces titres-là. Donc c'était important. Là, tu vas te battre contre le chrono donc pour le 5000. Rome, pas sûr d'y aller. Le marathon non plus. Donc comment tu axes ta préparation, tout simplement, d'un point de vue des entraînements? T'es reparti sur la piste, tu fais beaucoup de fractionnés, beaucoup d'exercices difficiles, moins de volume du coup, Margot, en ce moment?
Ici, ouais, on a un peu baissé le volume et on fait beaucoup de qualité pour bien débrider.
Ouais.
Débrider le moteur, là.
Et c'est quoi une semaine type, par exemple, qu'on puisse se rendre compte d'une athlète comme toi qui veut se reconcentrer sur des distances courtes comme le 5000?
On va dire le lundi, je fais SP5 avec le groupe de Lille, les garçons. Donc, on peut dire que ça y va. Après, ça varie beaucoup. Je fais du vélo et de la muscu deux fois semaine avec le préparateur physique à Orchi, que je remercie.
Ouais.
Et après, il y a des côtes pour bien bien débrider aussi.
Ah. Tout ce que t'aimes. Là. Ouais. Yoann, il a l'œil qui pétille.
C'est ça. Il y a longtemps que je t'en ai pas
dit. Laisse-moi tranquille.
Et de la VMA courte.
Allez, voilà, mais parfait.
C'est que du coup, ouais, forcément.
Bah là, elle a un gros moteur, il faut en quelque sorte, il faut le débrider. Quand tu passes du marathon, bah là, c'est de nouveau un grand écart. Elle a fait un premier grand écart, passer du 1500 au marathon, bah là, elle refait un grand écart. Mais pour une danseuse, elle maîtrise.
Ouais, voilà, c'est ça.
Donc, ouais, elle repart sur du cours, là. Ouais.
Mais ça veut dire qu'en termes de volume, t'as beaucoup baissé, Margot.
Ouais. Là, je fais beaucoup de natation, vélo et de muscu, plus une préparation physique par semaine, ce qui est énorme. Donc le volume il a vachement baissé.
Ouais. Est-ce que le risque de blessure est accru?
Ah oui. Ouais. Bah là quand tu passes justement d'une grosse période où tu faisais beaucoup de longs avec très peu d'intensité, justement repasser sur des rythmes beaucoup plus courts, le corps peut être fragilisé justement par la casse mécanique du long.
Ouais.
Et donc faut faire attention. Ouais, faut le faire avec parcimonie. Mais par contre c'est très bien cette période pour elle. Je pense qu'elle peut se surprendre parce que quant à la caisse, on le dit souvent, le long libère la vitesse.
Ouais.
Et c'est vrai que là elle a 2 mois pour travailler un peu le rythme 5000 et je pense qu'elle, voilà, avec le volume qu'elle a fait avant, ça peut faire quelque chose d'intéressant.
Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots le Kenya? Nous on l'a vécu à travers Yoann parce qu'on continuait de faire des podcasts quand il était là-bas tout seul dans cette période particulière. Est-ce que c'était ton premier stage au Kenya et comment tu l'as vécu, Margot?
Alors le premier stage c'était au mois de novembre, d'ailleurs avec l'équipe de Ribeiro, Bastien Augusto et
Patrick Ribeiro, l'entraîneur. Voilà. Ouais.
Ouais. Ouais, on était là-bas et quand je suis revenue en France, je me suis dit, oh, mais je suis tombée où? Parce que je sais pas, il y a un monde entre le Kenya et la France. Je sais pas,
c'est une
différent.
Question de perception, c'est-à-dire que là-bas c'est le sport roi et que tout est fait pour les coureurs, c'est ça?
Ouais, c'est plus zen. J'ai l'impression qu'ils sont plus zen, les gens. Plus zen et plus heureux.
Donc, oui. C'est un contexte de travail qui est excellent pour des sportifs comme vous, quoi.
Mm. Oui. Et donc, du coup, j'ai repris des billets et je suis repartie.
Ah, direct.
Ouais, quand je suis revenue en France, le troisième jour, j'ai repris des billets et je suis repartie au mois de décembre.
Ah, c'est
et là,
incroyable.
J'étais avec Yodu.
Ah, magnifique. Ouais. Bon, Dr. Love.
J'aimerais qu'elle raconte les 5 jours où elle est restée au lit.
Ça m'intéresse.
On l'a plus vue pendant 5 jours.
Ah, intoxication alimentaire, le classique.
Le classique.
Ouais. Ouais, parce qu'en fait, je mange pas d'œufs. Et ce jour-là, c'est un hamburger aux omelettes. Et donc, du coup, j'ai mangé que du chou. Mais le chou, apparemment, il a peut-être mal été lavé ou je sais pas.
Ah oui.
Et du coup.
Et comme tu as rajouté du sucre parce que tu croyais que c'était du sel, forcément, ça n'a pas arrangé les choses, quoi.
Un repas à base de choux aussi, pendant 5 jours derrière.
Toi, t'es un salaud parce que tu devais rigoler en plus. Non, mais
ah ouais, j'ai porté le smecta.
Eh, tu sais, Margot, on avait des contacts quotidiens avec Yodu et il nous disait toujours ah, ça va, moi pour l'instant, pas l'intoxication. Et tu nous avais cité cet exemple du gars qui avait eu 30 jours de smecta, je crois.
Ah oui, bah il en.
Ah ouais.
Ouais, pensez à lui, pensez à Renaud, le pauvre.
Incroyable, quoi. Ouais, bah, forcément, c'est le côté difficile du Kenya. Vas-y,
je disais hôpital. Je disais non, pas hôpital, pas hôpital. Je disais sleep, tomorrow good.
Ah, magnifique. Bon, voilà, les bons souvenirs kényans de Margot Siraki. Juste avant de passer à la séance, on voudrait juste faire un petit coucou d'ailleurs, puisque c'est championnat de France de marathon le week-end dernier.
Ah oui.
Petit coucou à Florian Hoth.
Championne de France.
Championne de France.
Retour.
10 mois après avoir accouché de son enfant avec Nicolas Navarro.
Boom.
Magnifique. Le cap du golfe de Saint-Tropez. 2:46.02 chez les hommes. On salue Benjamin Paulin qui lui s'est imposé en 2h23 et 10 secondes. Et on passe tout de suite à la séance.
RMC, la séance.
Alors, Margot est en plein dedans. C'est une séance un peu particulière, mais qui va parler à tout le monde, Maître Yodu. Comment gérer les temps de récup sur une séance de fractionné? On va déjà rappeler les fondamentaux d'une bonne récupération entre les séries d'un fractionné. Les facteurs du fractionné, on les connaît tous. La durée, l'intensité, la distance, la régularité. Mais déjà, avant de commencer, peut-être qu'on va dissocier les fractionnés, Yodu. Le fractio court inférieur à 2 minutes
ouais.
Et le fractio long supérieur. En gros, on peut diviser ça comme ça déjà.
Ouais, parce que c'est vrai que sur la durée de récupération, tu peux diviser. Parce que le fractionné court, le temps de récupération, il est généralement égal au temps d'effort. Par exemple, si tu fais 15 fois 200 en 40 secondes, bah, ouais. Généralement, tu vas prendre 40 secondes ou dans ces eaux-là. Et ça, c'est vrai, jusqu'à 1 minute 15, tu prends généralement le temps de course sur le temps d'effort. Et à l'inverse, sur le fractionné long, le fractionné, il ne sera pas identique. Tu le vois bien quand tu fais des 1000 mètres, tu ne prends pas des 1000 mètres en 4 minutes, tu ne prends pas 4 minutes de pause. Tu prends généralement 2 minutes ou des choses comme ça. Donc du coup, effectivement, le fractionné court, le temps de récupération sera généralement égal à la durée d'effort. Et le fractionné long sera de manière différente. Mais c'est vrai que la gestion de la récupération lors de ta séance de fractionné, elle est essentielle pour optimiser tes performances, en fait. Et je le disais tout à l'heure, c'est vrai que tu peux me dire n'importe quelle séance et avec n'importe quel chrono, le plus important dans la question, c'est la récupération. Parce que si tu fais, je sais pas, 10 fois 1000 en 3 minutes, mais que ta récupération 4 minutes, c'est pas comme pareil que 10 fois 1000 en 3-0-3, récupération 1 minute, tu vois. Donc effectivement, la récupération va te donner, va te permettre de travailler de façon différente suivant ton objectif, ton niveau de forme et ta saison. C'est-à-dire que sur une période foncière, généralement, on a tendance un petit peu à pincer les récups pour aller un petit peu moins vite sur les efforts. Et sur une période d'affûtage, c'est l'inverse. On va avoir tendance à augmenter les récups pour pouvoir augmenter la vitesse.
Ah, ça, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que si tu es sur une prépa spécifique 10 km,
voilà.
Là, donc tu l'as dit, les récup plus longues, mais beaucoup plus d'intensité.
Exactement.
Sur les
séries, c'est pareil. Ça dépend de ton objectif. Pour déterminer ta récupération que tu vas faire en fractionné, tu dois le déterminer par ton objectif. Un marathonien, généralement, il a tendance toujours à pincer les récup.
Ouais.
Et un coureur de 1500, 5000, les choses comme ça, de fractionné court, lui, ses récup seront quand même relativement longues pour permettre une récupération active, presque récupérer à 100%, oxygéner les muscles comme il faut pour pouvoir repartir sur un niveau d'intensité optimal pour pouvoir progresser comme ça.
Si on parle du fractionné court, la séance qui parle à tout le monde, c'est les fameux 30-30. Ça, tout le monde en a déjà fait. Tous les coureurs réguliers en font souvent plusieurs fois par mois. Quels sont les conseils sur du 30-30? Là aussi, ça dépend de l'intensité que tu mets sur le temps d'effort. C'est-à-dire que si tu vas à fond, tu vas plutôt marcher sur la récup des 30 secondes. Et si tu vas un peu moins vite, tu vas essayer de le faire en trottinant. C'est un peu ça pour schématiser?
Là, c'est un autre moyen, un autre levier de changer les entraînements aussi. Ça va être ta vitesse de récupération entre les séries.
Ouais.
C'est-à-dire que si tu prends 30 secondes de marche ou 30 secondes actives à 70% de ta VMA, c'est pas du tout le même effort. Tu vois, il y en a un où tu vas vraiment faire redescendre le cardio au maximum, redescendre à, je sais pas, 120, 130 pulses en dessous de 70% de ta fréquence cardiaque max. Et il y en a un, si tu continues de trottiner à 75% de ta VMA, du coup, c'est pas du tout le même effort. Le cardio va descendre moins bas. Donc là, c'est pareil, c'est des leviers que tu actives avec ton entraîneur pour savoir justement quel secteur tu veux travailler. Plus tu vas, si tu marches, effectivement, le cardio va descendre plus bas et tu vas potentiellement mieux récupérer. Tu le vois généralement quand tu fais du fractionné. Au début, tu trottines et quand tu commences à couiner un petit peu, tu as tendance à aller un petit peu moins vite sur la récup pour mieux récupérer.
Okay.
Donc, l'idée, c'est de vraiment... Moi, ce que je conseille quand même sur des séances de fractionné, c'est de ne pas rester statique ou allongé. On le dit souvent, tu vois, quand tu finis tes 400, il ne faut surtout pas t'allonger.
Parce que ça gorge les jambes de
l'équipe. Exactement. Il faut faciliter la circulation sanguine et éliminer les déchets métaboliques. Donc, du coup, il faut toujours trottiner. Et voilà, c'est des séances de travail. La récupération, en fait, elle fait partie vraiment de l'entraînement, du corps de la séance. Et quand tu la fais à 10 km/h ou à 15 km/h, c'est pas du tout pareil. Quand tu prends 30 secondes ou 1 minute 30, c'est pas du tout pareil. Donc, effectivement, la récupération entre les séries, c'est un levier très important dans l'entraînement.
Si je comprends bien, sur une séance de 30-30, si tu veux bosser la caisse et le fond de caisse, tu vas aller un peu moins vite, mais tu auras une récup qui va être un peu plus active.
Voilà. Il y aura peu d'amplitude entre ta vitesse de course et ta vitesse de récupération.
Et si tu veux débrider et là aller chercher le maximum de tes capacités, au contraire, tu vas pouvoir marcher sur les 30 secondes, mais tu vas envoyer plus de vitesse sur la série des 30 secondes. Ce que tu aimes bien faire, toi, coquin, c'est les 45-30, par exemple. Donc 45 secondes de temps d'effort et 30 secondes de récupération. Là, c'est différent.
Et
aussi.
Pas de série entre les blocs. Et comme pas, ça, voilà, et pas de récup ça. Entre les blocs. Voilà,
comme
tout s'enchaîne.
Pas jusqu'au bout.
Voilà. Ouais, moi, j'aime bien ce genre de travail, surtout pour le marathon. C'est de pousser un peu le corps, le cardio, l'intensité. Et derrière, tu permets au corps de ne pas totalement récupérer, de ne pas totalement se réoxygéner pour pouvoir continuer comme ça à enchaîner un peu sur la fatigue et un peu avec le cardio toujours un petit peu haut, avec les jambes qui brûlent. Et je trouve que c'est intéressant pour le long. Mais à contrario, si je faisais du 1500 ou du 5000, effectivement, bah, j'aurais tendance à plus courir sur la fraîcheur et à mettre des récup plus longues pour mieux récupérer. Ouais.
Margot, tu te reconnais dans tout ce qui est dit ? Là, c'est des séances que tu connais, donc le système de récup, c'est le même pour toi ?
Oui, et j'aime bien un peu le même principe que Yodju. Donc, moi, je fais des 45-15, 40-20 et 30-30, qui est un peu une pyramide.
45-15, ça veut dire 15 secondes de récup seulement ? Ah ouais, là, ça pique.
Ouais, après des 40-20 et des 30-30.
40-20, là on est 20, dans le nord.
On est dans
le Ouais. Ok. Bon, là on a bien parlé des fractions courts. Parlons des fractions longs parce que là aussi ça ouvre un champ des possibles immense parce que là tu peux jouer avec justement le nombre de répétitions, la distance qui n'est pas forcément la même systématiquement et la façon dont tu récupères parce qu'il y a plein de plans qui te proposent par exemple de la récup en secondes et d'autres en termes de distance, en mètres. Tu récupères 100 mètres, 200 mètres par exemple. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Les séances supérieures à 2 minutes, quels sont les bons conseils à adopter alors ?
C'est toujours pareil, c'est en fonction de si vous préparez un marathon ou un 5 km, mais je pense que malgré tout, même pour un 5, à un moment donné, je pense que les récup, elles doivent être à minima courues. Pour moi, il faut absolument pas marcher sur de la récupération.
Okay.
Et moi, je trouve que le vrai travail qui est intéressant, c'est de, sauf dans la période d'affûtage, c'est de vraiment travailler sur des récupérations dites actives, avec une récup un peu pincée, pour justement faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas abaisser le cardio trop bas et de pas de courir un petit peu, comme je le disais, avec ses jambes un petit peu gorgées encore, pas totalement avoir bien récupéré de son effort pour justement essayer de garder l'intensité derrière en forçant là-dessus. Et je trouve que ça, c'est un bon compromis donc à faire des récupérations actives pour justement permettre de faire un gros volume global. Parce que généralement, quand vous faites de séances de fractionnés, que vous regardez... moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder le temps que j'ai mis. Par exemple, admettons une séance de VMA, je regarde l'effort couru et l'effort de la récup et voir au global ce que ça m'a fait. Et je trouve que c'est intéressant quand c'est couru quand même assez vite, que ce soit la récup et l'effort.
Ouais. Ouais, ouais.
Sauf en période d'affûtage, les 15 derniers jours ou les 3 dernières semaines, où là, par contre, faut faire des récup.
Mais il
ne
faut pas avoir peur, donc, sur du fractionné long, de baisser un peu l'allure, mais d'avoir une récup plus active.
Par contre, le corps travaille autant, en fait. Ouais. Sauf si vous avez 15 marathons à votre actif et que vous êtes complètement bridé et que vous avez besoin de décoiner un petit peu, là dans ce cas-là effectivement ça vaut le coup. Mais sinon si vous êtes un débutant ou un coureur dans une préparation foncière, effectivement je trouve que l'amplitude entre la récup et l'effort, il faut qu'il soit le plus limite possible.
Ouais. Parce qu'il y a des séances qui sont bien démocratisées chez les coureurs réguliers, notamment en marathon. C'est, tu sais, les fameuses séances longues avec un kilomètre
rapide, de récup,
un kilomètre actif, mais un peu de récup.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Ouais.
Là aussi, les allures sont difficiles à établir.
Je le vois, moi je l'ai fait pour revenir au Kenya, justement, avec le groupe de Julien Wanders. C'était des récupérations actives à 3:30. Donc, effectivement,
tu récupères jamais.
Pas totalement à 100%.
Mais c'est le but.
Et à la globalité, ça nous avait fait une sortie de 15 kills à 3:15 ou 3:20. C'est comme si on avait fait presque une séance de tempo, mais dedans, il y avait des allures à 2:55 et les récup à 3:30. Et la globalité,
et
ça faisait...
Tu sens un gain tout de suite, toi, en termes de performance
Pour du volume, c'est intéressant. Alors après, il ne faut pas le faire tout le temps parce que c'est quelque chose qui use quand même psychologiquement, mentalement. Et c'est vrai que la récupération te permet de te concentrer aussi sur, d'un point de vue mental, de souffler un petit peu, tu vois, d'un point de vue mental, de respirer, de se concentrer sur la récupération, de se dire, allez, plus que 2-3 séries et tout. Et c'est vrai que quand tu as tendance à la courir vite, bah, elle te fait pas tout à fait cet effet-là. Donc, d'un point de vue mental, c'est dur à faire. Mais le faire comme ça, c'est pareil, hein, c'est dans l'entraînement, c'est une petite pincée de ci, une petite pincée de ça. Voilà. Mais le faire tous les 15 jours, faire ce genre de séance, ça peut être intéressant.
Et justement, est-ce que c'est un conseil que tu donnes de ne surtout pas faire systématiquement les mêmes séances ?
Ah ouais,
même de varier le système de récupération,
ah bah oui,
pour casser la monotonie comme ça et voir autre chose, en fait.
En début, par exemple, en début de saison, vous faites 10 x 400 récup pincée, donc 40 secondes, tu vois. Et progressivement, dans la saison, après, tu montes à 55 secondes si tu veux aller beaucoup plus vite. Et je te dis, après, c'est l'intensité que tu mets dans les récup et dans les efforts. C'est là où tu as 1000 façons de jouer dans l'entraînement.
Okay.
Et c'est quand même intéressant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour moi, il ne faut pas marcher, il ne faut pas rester à il faut toujours trottiner sur les récup à minima.
Même sur du fractionné court.
Même sur du fractionné court, même sur des 200, trottine tout doucement, mais trottine, tu vois, c'est quand même, on
bon
fait
conseil.
De la course, hein, on fait pas de la marche. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Donc, mais ouais, déjà pour éliminer les toxines et tout ça, c'est quand même la base. Et puis c'est comme ça qu'on progresse le plus quand même.
Margot, quelque chose à rajouter sur les fractionnés longs ?
Non, c'est que je me dis, au Kenya, ils font ça deux fois semaine quand même, en fait. Ils font fractionner court mardi et fractionner long jeudi. Donc, en fait, je me dis, eux, ils en bouffent du fractionné.
Ah bah oui, bien
sûr. Mais après, c'est peut-être pas les mêmes personnes, je sais pas.
Ouais, mais c'est vrai que c'est la programmation courante comme ça dans les clubs, c'est le court le mardi,
le long le jeudi.
Ouais. C'est un peu
toujours la sortie longue le dimanche.
Et la sortie longue le dimanche, voilà, obligatoire. Mais bon, c'est vrai que c'est des systèmes qu'on fait leur preuve aussi. Après, il y a des variantes.
Suivant la saison, je te dis, suivant ton niveau, suivant ta forme, tu peux jouer avec plein de choses.
Ouais. Bon, merci à tous les deux. On passe tout de suite au moment conseil d'RMC Running.
RMC, les conseils de The Running Collective.
Et ils sont là, les représentants de The Running Collective. Plus précisément, elle est là, Oriane Miton du TRC. Salut Oriane.
Salut.
Oriane, merci d'être avec nous. Donc tu es habituée, hein, tu passes souvent dans RMC Running. On voulait t'avoir cette semaine parce que le marathon de Paris se rapproche. C'est le retour du printemps, le retour de tous les produits qui sortent, hein, toutes les marques. Ça chauffe dans le portefeuille de tous les passionnés de course à pied. Donc toi, on va faire le point avec toi sur les différentes tendances. Mais pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent RMC Running aujourd'hui, bah, rappelle-nous déjà tout simplement ce qu'est The Running Collective. Comme ça, c'est plus simple.
Et bah, The Running Collective, c'est un comparateur en ligne et via une application d'équipement running. Donc en fait, ce qui permet de trouver tous ces équipements, que ce soit chaussures, vêtements ou accessoires, au meilleur prix du marché à l'instant T.
Voilà, c'est bien résumé. Comme ça, vous avez un bon site comparatif.
C'est clair, net et précis.
Le meilleur prix du marché, il est sur le TRC. Vous allez sur le site et vous trouvez tout ce qu'il vous faut. Quelles sont les tendances, Oriane, là, à quelques jours du marathon de Paris ? Toutes les marques sortent les nouveaux modèles. Est-ce qu'il y a des chaussures qui se dégagent ?
Bah là, de toute façon, en ce moment, c'est un peu les chaussures carbone. Je pense que beaucoup ont vu là les nouvelles chaussures qui sont sorties de chez ASICS notamment.
Ouais.
Je pense que Yodu a pu les tester un peu. Et donc forcément, c'est des chaussures maintenant. Beaucoup de personnes s'imaginent plus prendre le départ d'une course sans paire de chaussures carbone. Donc nous, c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est que c'est les chaussures les plus recherchées sur le comparateur, parce que c'est des chaussures qui attirent forcément. Aujourd'hui, il y a même les compétitions sur route, c'est devenu quelque chose d'ultra populaire. Donc ce sont des chaussures qui attirent toujours plus. Et après, on a les chaussures polyvalentes aussi. Je pense au Nova Blast ou au Nimbus de chez ASICS ou même au Boston de chez Adidas, qui sur marathon par exemple sont des chaussures qui peuvent totalement être adaptées, quoi.
Ouais, c'est vrai que la Meta Speed Sky Paris est en train
elle
de
est
sortir
belle en plus, hein.
Elle est magnifique et
elle est belle, hein.
Il y aura un gros événement ASICS vendredi 5 avril. RMC Running y sera associé, donc si vous voulez venir rencontrer toute l'équipe, on y sera le vendredi soir, n'hésitez pas. Magnifique événement, pas
je
mal
vais
de
courir
cours.
Le 5 km
tu vas courir le 5 km élite, on va
et là,
se régaler. Et là, tu vas nous envoyer, tu vas débrider ton moteur, mon petit.
Oh là là!
Donc c'est
intéressant. Il faut un mécano à l'arrivée parce que je suis pas sûr l'arrivée entière.
Ouais, c'est
5 km.
C'est en plein cœur de Paris, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire des autres marques? On a parlé donc de la Boston. Parlons d'Adidas justement, Oriane.
Chez Adidas, en tout cas, en paire de chaussures de compétition, ça fait un petit moment qu'ils n'en ont pas sorti. Il y a la Adios Pro 3 qu'on voit un peu partout pour le coup, qui est sortie en 2022. Et je ne sais pas quelle a été leur stratégie d'attendre aussi longtemps pour sortir une nouvelle paire, mais en tout cas, cette année, il va y avoir la Adios Pro 4 qui va sortir. Et donc, je ne sais pas si Margot a déjà eu un peu... des prototypes au pied, mais je pense que beaucoup ont hâte de voir le nouveau modèle de chez Adidas qui va sortir.
Le problème de Margot, c'est qu'en ce moment,
elle remet les pointes, donc elle lui parle pas de chaussures.
Voilà, c'est ça. Mais Margot, ouais, avec quoi t'as fait ton marathon à Séville, par exemple, avec un prototype Adidas ou avec les Adios Pro qui existaient déjà?
Alors, j'ai fait avec les Evo 1. Ouais, les sacrés Evo 1. C'est les chaussures les plus légères du marché.
Ok.
Ah, oui, c'est celles qui sont sorties en édition limitée.
Ah, t'as eu la chance d'avoir ça, toi. Bah, du coup, elles sont déjà mortes parce que tu les mets une fois.
Ouais, ça y est.
Du coup, tu les as déjà mises à la poubelle. Non, je plaisante, mais c'est marrant. Oui. Et ces chaussures tellement légères chez Adidas. Juste un mot aussi avec toi, Oriane, parce que là, on se projette sur le marathon de Paris. Mais est-ce qu'il y a des grosses sorties attendues? Il y a plein de marques qui profitent du mois d'avril, on l'a dit. Il y a Keep Run qui va sortir un nouveau modèle. Il y a On aussi, la marque suisse qui est là et qui va se positionner un peu plus sur de la chaussure performance. Hein.
Bah pour le coup, ouais, On va faire un gros coup cette année en sortant deux nouvelles paires de chaussures. Pareil, il y a la célèbre Club Boom Echo 3, donc d'ailleurs que Florian Hoth, championne de France de marathon, portait dimanche dernier. Là, il va y avoir deux nouvelles paires qui vont sortir cette année, donc une plutôt typée courte distance entre guillemets, donc 5-10 km, et une plutôt marathon, donc qui va sortir dans les prochains mois. Ouais.
Eh ben, on suivra ça et on vous tient informés. Il y aura beaucoup de ces chaussures à faire gagner dans RMC Running. Aïe, aïe, aïe. Donc restez à l'affût parce que les concours continuent. Merci Oriane, juste un mot parce que c'est la période. Est-ce que les commandes affluent comme ça au TRC dans The Running Collective? Est-ce que ça marche bien?
C'est Noël.
le printemps, de toute façon, avec le retour des compétitions sur route, forcément, ça attire du monde. Là, on voit même le marathon de Paris, il va y avoir plus de 50 000 personnes au départ, donc forcément, ça fait du monde. Donc, ouais, pour le coup, niveau chaussures sur route en ce moment, ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais.
Bon, bah tant mieux. Oriane, on se voit bientôt parce que tu seras dans l'équipe justement pour accompagner nos coureurs sur le marathon de Paris. À bientôt, merci au TRC qui nous accompagne sur les différents épisodes et on passe tout de suite au bon plan matos.
RMC,
le bon plan matos.
Et une première dans l'histoire d'RMC Running, puisqu'on va mettre en avant la marque Veja. Eh oui, alors forcément, vous connaissez la marque, vous en avez peut-être porté, vous en avez peut-être dans votre dressing, comme on dit. Mais là, on parle de running et on va parler avec Jean Pourra, qui est développeur sport chez Veja. Salut Jean.
Salut, enchanté.
Jean, je suis content de te retrouver, on s'est rencontré il y a un an. T'étais en phase de développement de cette chaussure running.
Exactement.
Entre le Brésil et la France. Et ça y est, on y est.
Ça y est, ouais.
La chaussure va sortir.
Ouais, après un peu plus de deux ans même. Ouais, c'est généralement ça dans l'industrie. Ouais, tu prends bien deux ans pour sortir une chaussure. Ouais.
Le temps de travailler. On va la présenter, cette Condor 3 de Veja, dans un instant. Rappelle-nous d'abord ce que représente la marque. Une marque qui est assez jeune, assez récente et pourtant qui est très connue, notamment, surtout en France d'ailleurs.
Bah, la marque, ouais, elle est jeune, oui et non, elle a 20 ans.
Ah, 20 ans.
Ouais, quand même. Les années passent. Et pour la petite histoire, en fait, Veja, ça veut dire regarde en portugais. Ouais. Donc, Veja, c'est français. Mais la particularité de Veja, en fait, c'est que c'est basé sur trois piliers. On vise vraiment, si tu veux, une justice économique dans la manière dont on produit nos chaussures. Sociale, c'est-à-dire avec qui on va la faire. Et environnementale, c'est la manière dont on la produit avec les matériaux. Donc ça, c'est les trois piliers de Veja aujourd'hui, parce que Veja, en portugais, ça veut dire « regarde ».
Avec un principe de base, pas de sponsoring et pas de publicité.
Et pas de publicité, exactement. Ouais.
Jamais. Donc la marque, on se met en avant, soi, mais c'est que du bouche à oreille.
Que du bouche à oreille, c'est de l'organique, comme on dit un peu dans le milieu.
Exactement. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans le running alors?
En fait, c'est parti d'un postulat en 2019 où on s'est rendu compte que 99% des chaussures de running sur le marché, elles étaient faites à partir de pétrole. Et nous, on s'est dit, ok, maintenant, quand même, ça fait pas mal de temps qu'on fait des chaussures, des sneakers, des baskets, ouais. Et on maîtrise la matière première qui est le caoutchouc. Et nous, on le récolte en plus directement dans la forêt amazonienne, on travaille en direct avec.
Il n'y a jamais de plastique dans une paire de Veja?
Si, si, il y a du plastique. Bien sûr. Il y a du plastique. Ouais. Et en fait, on s'est dit, ok, on a la matière première qui est naturelle, est-ce qu'on n'essaierait pas en fait de la transformer en une chaussure de running? Et ça a pris 4 ans avant de lancer la Condor 1 en 2019. Et puis d'année en année, on l'a fait évoluer pour arriver aujourd'hui à la Condor 3.
Ok. Le positionnement de la chaussure, parce que c'est toujours pareil, on se dit une marque comme ça, une marque de chaussures de mode, de sneakers qui se lance dans le running, est-ce que ça va être une marque performante? À qui ça s'adresse? Toi, l'idée de base, parce que c'est toi qui as développé la chaussure, c'était quoi? C'était de viser un grand public, viser des passionnés de course à pied. Tu t'es positionné ouais. comment là-dessus?
Alors attends, déjà, je ne l'ai pas développé tout seul, quand ouais, même, non, je travaille avec les designers et les ingénieurs.
Tu étais à la base du projet.
Ouais, en fait, l'idée, si tu veux, c'est que comme nous, on utilise des matériaux ressourcés ou blue cyclés, ou biosourcés, pardon, ouais. Ça veut dire issus du vivant, l'expansion d'une semelle, c'est beaucoup plus compliqué que quand tu pars sur du synthétique. En fait, tu veux atteindre un niveau de fermeté, donc ce qu'on appelle le cushioning, tu vois, l'amorti. Quand c'est de la formulation chimique, c'est facile. Quand c'est du vivant, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et nous, le postulat de base, c'était de se dire, OK, comment on arrive à avoir le même standard que les autres marques sur le marché avec nos matériaux, que personne n'arrive à faire aujourd'hui. Et ça, c'était vraiment, tu vois, le postulat de base.
Ouais.
Et une fois, en fait, qu'on a réussi à avoir ça, donc tu fais des tests en usine, tu compares ta paire à d'autres, et que quand tes tests sont meilleurs que les autres marques, tu te dis, OK, là, maintenant, on tient un truc. Et le postulat, c'était vraiment de se dire, la chaussure, nous, on veut faire qu'une seule chaussure dans notre gamme running, mais il faut qu'elle corresponde à tous les coureurs. C'est-à-dire, un débutant, il va prendre la paire pour vraiment pouvoir l'utiliser sur toutes ses sorties, alors qu'un runner confirmé, il va l'utiliser plus sur des runs récup, où il met un peu de tempo, mais pas vraiment beaucoup d'allure, quoi.
Ouais.
Et c'était vraiment pour cibler le spectre le plus large possible, large possible et que tout le monde s'y retrouve.
Parce que vous mettez des difficultés, parce que tout est fabriqué dans une usine brésilienne là aussi.
C'est ça, ouais.
Donc ça fait des coûts de production, ça fait...
Ouais. Alors tu fais bien de le préciser, donc tous nos matériaux, toute la matière première vient du Brésil et ouais. c'est produit au Brésil. Et la difficulté, c'est que comme on ne fait pas de pub, en fait, on peut investir l'argent qu'on n'a pas mis dans la pub, on investit ouais. et dans les matériaux et aussi dans le salaire des ouvriers au Brésil.
Voilà, donc au moins tout le monde est entre guillemets respecté et tout, ouais. tout ça c'est du travail de qualité. 287 grammes, j'ai vu la chaussure.
Ouais. C'est tout le monde va me dire ouais, ok, c'est un peu un standard sur le marché. En fait, oui, c'est un standard, mais accrochez-vous pour faire ce standard quand vous utilisez du latex naturel, ouais. des matériaux comme ça. Ouais. Là, on est sur un autre levier en fait. Donc pour nous, c'était vraiment un but ultime d'arriver sous les 300.
Ouais.
Et on est hyper fiers de ça. Ouais.
Donc tu nous l'as dit, ça s'adresse un peu à tout le monde. Où est-ce qu'on peut les trouver alors? On les achète où?
Bien sûr, on l'achète chez nous. Donc, ouais. On l'achète en boutique chez Véja, sur notre ouais. site internet. Et après, on a des revendeurs dans le monde entier qui distribuent la paire chez les sports spécialistes.
Ouais.
Et aussi une certaine distribution parfois un peu plus grand public. Ouais.
Parce que l'enjeu pour toi, ça va être sans publicité, de te faire connaître et de la démocratiser, entre guillemets. Donc comment vous allez vous y prendre?
La meilleure manière finalement de...
C'est le retour client ?
Non, mais la meilleure manière de courir avec une paire, c'est de l'essayer. Donc ouais. Nous, en fait, ce qu'on va proposer, ça après, vous le verrez, mais l'idée, c'est qu'on puisse faire des activations où tout le monde va pouvoir venir essayer la paire et se faire une idée par eux-mêmes de qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça veut dire surtout de courir avec une Véja.
C'est la difficulté, Yodu, parce que quand on parle de running, évidemment, tout le monde a envie de s'équiper. On peut avoir peur au départ d'aller sur une marque qui n'est pas spécialisée, mais en revanche, la démarche est excellente déjà.
La démarche de prendre des matériaux un peu éco-responsable, avec un vrai respect de l'environnement et un vrai respect dans toute la ligne de production, déjà, c'est quelque chose, et dans le développement durable, qui aujourd'hui est pris en compte par les consommateurs. C'est vrai que tu le vois sur le côté Made in France qui est assez à la mode, mais c'est vrai que pareil dans la chaussure, ce côté-là, à un moment donné, on va se poser la question d'aller vers des produits comme ça, donc c'est très bien. Et si en plus ils sont performants avec une catégorie de chaussures qui colle à ce que le consommateur a besoin, à savoir une chaussure confortable avec un bel amorti où il va pas se blesser, et si en plus elle est produite comme ça de façon propre pour la planète, effectivement, après, il faut se faire connaître, mais effectivement, sinon, toutes les cases un petit peu sont cochées, mais voilà, il faut que le consommateur le valide et teste et kiffe la Véja, ouais.
Sache, pour ton info, mon petit Yodu, que la semaine intermédiaire est composée de canne à sucre, notamment.
Exactement, ouais.
C'est bon, ça. Ouais, c'est fou.
Comme ça, si tu as besoin d'un petit remontant, voilà, tu la presses.
Si elle aussi a une fringale comme ça dans la montagne, il met la chaussure, hop, il peut pourquoi
tu
pas.
Tu peux la presser au 30e à Tévi, je suis pas sûr que tu auras fait ce compter.
Le prix de vente de la chaussure?
Ouais, bien sûr. Le prix de vente, en fait, on est sur une paire à 180 euros.
Ouais.
Pour un daily trainer, donc c'est sûr que c'est plus cher que d'autres marques, mais encore une fois, on n'a pas les mêmes matériaux, on n'a pas la même logistique.
C'est sûr. Ouais. Et tu pars d'une chaussure qui est entre guillemets écologique, mais tu as un enjeu de durée de vie aussi.
Exactement.
Est-ce que vous avez testé la chaussure? Tu sais combien de temps ça dure?
Ouais, en fait, la chaussure, on l'a testée en usine avec des tests mécaniques et biomécaniques avec des coureurs. Après, on a fait appel à un panel de coureurs donc, pour tester la paire sur la durée. Et on parle de durabilité dans la chaussure. Non seulement dans la manière dont elle est construite, mais aussi en fait dans la distance que tu peux faire avec. Il y a une étude qui est sortie, c'est la clinique du coureur aussi qui s'est penchée dessus. Une paire aujourd'hui, les marques les vendent avec une durabilité donnée sur les kilométrages. Nous, on s'est rendu compte que la paire, tant qu'elle n'était pas déformée d'un point de vue de la mousse, de l'aspect visuel, elle peut être fatiguée. Si en fait il n'y a pas de déformation au niveau de la mousse et au-delà de ça, qu'il n'y a pas de douleur à l'apparition de la course à pied, la paire elle est toujours durable. Donc on l'a poussée à plus de 1000 km. Alors oui, il y a des signes extérieurs d'usure, mais ensuite en termes de durabilité, il n'y a pas de problème.
En coloris, parce que là j'ai sous les yeux le modèle violet, rose, orange, c'est un peu ça. C'est le seul coloris disponible.
C'est le coloris de lancement. Okay. Et ensuite on aura deux autres coloris sur la première saison, un noir et blanc et un full white. Et puis d'autres viendront sur la deuxième partie de l'année. Ouais.
Elle est disponible ?
Elle est disponible le 28 mars.
28 mars, magnifique. Merci beaucoup Jean Pourra de nous avoir présenté cette Condor 3 de Veja. N'hésitez pas à participer. Tout de suite, on passe au bon plan d'Ossard.
RMC,
le bon plan d'Ossard.
Qu'est-ce qu'on les gâte nos auditeurs.
Ah ouais, mais il y a des bons plans.
Un peu plus. Il y a du bon plan dans tous les
RMC
sens.
Bon plan.
C'est vrai que Margot est patiente parce que là, on enchaîne les bons plans. Et là, on va parler d'une course qui va intéresser les Parisiens. Le 10 km du Bois de Boulogne, la date est parfaite, le 28 avril. L'horaire est parfait. Départ à 10h. Là, c'est tout
c'est
ce qu'on aime.
Tôt.
Après la grasse mat, le cadre est somptueux. On en parle avec Benoît Grassini, qui est cofondateur du site Finisher. Salut Benoît.
Salut.
Benoît, est-ce que tu peux nous rappeler ce que représente le site Finisher, s'il te plaît?
Oui, tout à fait. Alors en fait, finishers.com, c'est une plateforme qui permet aux coureurs de toute la France de chercher des événements et de pouvoir trouver facilement des événements en France, mais aussi en Europe, et de les réserver en quelques clics.
Les spécificités de ce 10 km, Benoît, parce que c'est une course qui reste à taille humaine, on est en plein cœur du Bois de Boulogne, tous les Parisiens qui s'entraînent dans l'ouest de Paris connaissent bien. Là, c'est un 10 km sympa, mais avec du dénivelé, hein.
C'est effectivement un 10 km qui est 100% dans le Bois de Boulogne, avec un peu de dénivelé effectivement. Donc c'est une course qui est assez historique, c'est la 14e édition.
Ouais.
Voilà, course très sympa, uniquement dans le Bois de Boulogne, qui est complète cette année. Donc
plus
une possibilité d'avoir des dossards, si ce n'est par cet intermédiaire. Donc événement qui a été extrêmement demandé cette année et qui va être encore une fois très sympa.
On est là les gars, on est là pour vous faire les derniers dossards. Dis-nous un peu un mot de finisher, quelles sont les grosses courses qui marchent en ce moment chez vous? Il y a pas mal de beaux marathons qui font partie de votre besace désormais, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns?
Ouais, alors c'est vrai qu'en ce moment on a eu une grosse actualité sur tous les marathons du mois de mars et d'avril. On a eu beaucoup de demandes sur des marathons comme le marathon de Barcelone, le marathon de Rome, le semi-marathon de Milan qui viennent de passer. Et là, on a aussi énormément de demandes sur des marathons, alors soit qui arrivent prochainement comme le marathon de Rotterdam qui lui aussi est sold out, ou alors un de ceux qui fonctionne le plus chez nous, c'est le marathon d'Amsterdam. Qui aura lieu après l'été, mais qui est un marathon extrêmement demandé, qui est encore prévu cette année pour être sold out très très tôt, et donc sur lequel on a énormément de demandes. C'est plutôt sur des courses étrangères, et on a eu la chance d'ouvrir la semaine dernière la Saint-Élion pour une course plutôt française, et on est moins sur de la route, mais voilà, qui elle aussi affiche des records d'inscriptions. Il y a eu plus de 6000 inscriptions en 24 heures. Donc voilà, il y a un très très gros engouement en ce moment sur les courses, peu importe les distances et peu importe les destinations, et tant mieux.
Bon, Yodu, question piège, est-ce que tu sais qui a gagné le 10 km du Bois de Boulogne l'année dernière?
Ah,
recherche non. Pas sur ton ordinateur, coquin.
Non, je sais pas.
Un champion français.
Hassan Chadi.
Non, Jimmy Gressier.
Jimmy, qu'est-ce qu'il foutait au Bois de Boulogne?
Sorti dominical, il a gagné en 29-38, je crois. Les doigts dans le nez.
D'accord.
Voilà. Donc,
il s'était perdu du côté de Boulogne.
On verra qui sont les champions qui s'aligneront cette fois-ci. On le répète, donc le 28 avril, le 10 km du Bois de Boulogne. Deux dossards offerts grâce à Finishers et grâce à Iron, qui est partenaire de l'événement. Merci Benoît d'avoir été avec nous. Et donc deux dossards à gagner. Vous connaissez le système désormais. Vous postulez sur nos réseaux sociaux, sur le Club RMC Running, sur Strava, sur notre compte Instagram, avec un test d'écoute qui est évident aujourd'hui grâce à Margot Siraki. Quel est le nouveau surnom du Haut Durand? Vous n'hésitez pas.
Arrête, ça va me coller à la peau après.
Vous n'hésitez pas à vous répondre et comme ça vous pouvez postuler pour ce magnifique 10 km. Merci Benoît, à bientôt dans RMC Running.
Merci à vous, à bientôt.
Merci à toi et merci à Margot Siraki qui nous a accordé du temps. Merci Margot, on espère pour toi que tout va rouler pour les prochains objectifs, notamment sur les différents 5000 qui s'annoncent. Bah, on croise les doigts pour toi Margot.
Bah, c'est super sympa, on va donner le maximum et on verra.
On peut te faire confiance. Et puis la musique que tu écoutes quand tu cours, c'est la tradition derrière ces running.
Là, je veux voir ce qu'elle écoute.
Est-ce qu'on a la musique? Ouais, on l'a la musique, et voilà. C'est Blacko. Ah, tu as choisi Blacko, sympa.
J'ai habillé mon professeur et je suis son élève.
Ah ouais, tu dansais, mais tu chantais pas, par contre.
C'est sympa, ça, franchement, ça s'écoute.
Ah oui.
Ouais. Sous la pluie, comme ça, dans le nord.
Dans le nord.
Pas mal. Pour aller à l'entraînement.
Avec les frites.
Ben voilà, le top. Bon, merci Margot Siraki d'avoir été avec nous. Merci au grand maître Johan Durand.
Merci.
Je vous donne pas son surnom. Vous devez écouter le début de l'épisode. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'RMC Running. Et d'ici là, quand vous courez, souriez. Ça aide à respirer. Salut à tous.